Et bienvenue dans ce nouvel épisode des Projets du Web, le 10e épisode déjà. Joyeux anniversaire à nous. Content de vous retrouver pour un nouvel épisode avec toujours, encore et toujours, ma compagnie Mathieu. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu ?
Bonsoir, bonsoir à tous. Bah, écoute, ça va très bien. On continue, le rythme est bon, on essaie de tenir. Non, c'est super, ça fait plaisir de continuer. Et puis tu es de retour avec ta voix entièrement guérie, donc ça fait plaisir aussi de voir ça.
Ça, c'était la première annonce que j'allais faire. Alors, avant toute chose, je m'appelle Nicolas quand même pour m'introduire auprès des gens, me présenter, parce que je me rends compte que j'introduis l'émission, je te présente, mais je pense jamais à dire bonjour moi, donc voilà, moi c'est Nicolas, bonjour à tous. Et effectivement, je vais mieux, j'ai récupéré ma voix, je ne tousse plus, alléluia, je ne suis plus malade, comme quoi, tout arrive. Bon, alors, pour ce 10e épisode, on vous a concocté, comme d'habitude, énormément de news et de projets, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Mais avant de commencer, j'avais une petite annonce à faire. Je voulais en fait en appeler aux auditeurs des projets du web, parce que je sais que vous êtes quelques-uns à nous écouter, hein, les chiffres montrent quand même quelques centaines de personnes qui nous écoutent. Et donc, j'aurais aimé que certains d'entre vous viennent nous faire des petits retours, des petits commentaires, viennent nous dire ce qu'ils pensent des projets du web en général, de la nouvelle formule, du nouveau générique, que sais-je, quelles sont les rubriques qui vous plaisent, celles qui vous plaisent peut-être un peu moins, les endroits où vous trouvez qu'on n'a pas été très juste, que vous avez trouvé super intéressant. Nous dire vraiment ce que vous pensez de la structure globale de l'émission. Nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous imaginez peut-être pour le futur des projets du web. On est vraiment à l'écoute, on est demandeur d'un retour, donc n'hésitez pas, tant que c'est constructif, même si c'est négatif, aucun souci. Tant que c'est du constructif et que ça nous permet d'avancer, on est demandeur. Donc n'hésitez pas à venir, hein, comme d'habitude en fin d'émission, on vous présentera tous les canaux pour nous contacter. Le plus simple pour laisser un commentaire, c'est lesprojetsduweb en un seul mot .net et vous arrivez directement sur notre page PodCloud où vous pouvez laisser un commentaire et dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Donc voilà, merci à vous et on espère quand même avoir quelques petits retours, ça ferait vraiment vraiment beaucoup plaisir. Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant d'entrer
dans le sujet. C'était limpide, rien à ajouter. Non, mais oui, effectivement, les retours nous feraient plaisir pour évoluer, pour encore améliorer la formule. Donc allez-y, n'hésitez pas.
Parfait. Eh bien, on va entrer directement dans le vif du sujet, disais-je donc, avec les news du web, pour commencer. Eh bien, j'introduis la chose. Hein. Donc ici, j'ai relevé une petite news. Je vais passer assez rapidement parce que je pense que beaucoup de gens ont déjà entendu parler. C'est le fameux rapport qui est émis aux États-Unis chaque année par les représentants au commerce. Donc le rapport spécial 301 pour ceux qui veulent les mentions exactes, qui vise à évaluer les actions de protection en matière de propriété intellectuelle et qui, chaque année, dans son rapport, donc, pointe du doigt les mauvais élèves en termes de piratage sur Internet. Donc dans ce magnifique PDF, on a droit à toute une liste de sites qui sont contrevenants au copyright et à la législation en vigueur. Donc si vous êtes en manque de sites de torrent ou pour vous chercher un bon lien pour télécharger, c'est l'occasion, hein, n'hésitez pas à les consulter. Ils regorgent vraiment de sites. Bon, pour le coup, très peu de nouveautés par rapport à l'année dernière, hein, pour ceux qui l'avaient déjà suivi. Il y a juste eu la disparition du célèbre Wawa Mania, hein, célèbre bande française qui était fermée. Et puis on retrouve les classiques, hein, les liens d'hébergeurs de fichiers un peu comme Rapidgator, Uploaded, des choses comme ça. Des sites de BitTorrent, évidemment, hein, ExtraTorrent, Kickass, etc. Voilà. Donc je trouve ça assez marrant de se dire que, au final, comme ça, dans un rapport officiel, on a droit à une petite liste qui permet d'avoir accès à une quantité de sites illégaux. Je vous publierai le lien dans la description de l'émission, hein, bien entendu.
Sachant que, bien entendu, on n'incite pas directement nos auditeurs à les utiliser. Ça n'est qu'à titre purement informatif que l'on
Oui.
partage cette information.
C'est vrai que
Bien entendu.
je me montre d'être enthousiaste, mais non, bien évidemment, le piratage, c'est mal. Mais vous pouvez vous en servir, on trouve des ISO Linux dessus, on trouve de tout, hein. Allez-y. Bon, voilà, c'était la petite news.
Ça marche. Dans le genre, justement, pour contrer le piratage, il y a des alternatives qui émergent sur Internet. On en connaît un certain nombre, et notamment, je pense, Patreon marquera peut-être plus les esprits chez nos auditeurs, notamment parce qu'on a quelques podcasteurs assez connus qui utilisent ce site-là, enfin ce système-là. Et en fait, la news, elle est toute fraîche, elle vient de tomber. Une autre plateforme assez similaire à Patreon qui s'appelle, alors je vais avoir du mal à le prononcer, je ne sais pas comment toi tu le dirais, mais s'appelle Subable, je ne sais pas comment tu le dirais.
Oui, ce bébel, je bonne question.
Subable, bon, voilà. Donc c'est un service qui, en fait, à l'origine, est un service qui a été fondé par YouTube. C'était un service d'abonnement vidéo qui proposait, grosso modo, une plateforme de collecte de fonds assez similaire à Patreon sur leur propre contenu. Donc ça permettait aux éditeurs de contenu d'être financés par un fonctionnement de tips, enfin de pourboire, donc assez similaire à Patreon. Et finalement, l'objectif commun des deux plateformes, c'était d'agréger du contenu de qualité sur l'ensemble dans le monde entier, et de faire financer non pas l'accès à ce contenu, mais faire financer des personnes qui apprécient ce contenu et qui seraient prêtes à mettre de l'argent de manière récurrente à l'apparition d'un contenu donné. En fait, la news, c'est que ces deux systèmes vont s'unir, puisque Subable va fermer ses portes pour être intégré à Patreon. Alors concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire que cet été, le site va fermer. La migration de tous les créateurs de Subable vers Patreon est en cours. Vous pouvez déjà, si vous êtes en tout cas un éditeur de contenu depuis leur site, activer la migration pour partir sur Patreon. Et l'ensemble va être récupéré. Ils expliquent bien que comment on appelle ça, les rétributions ne vont pas cesser. Tout va être il y aura une continuité, en fait, entre une plateforme et l'autre, et donc on se retrouve avec un seul gros acteur majoritaire sur ce segment-là du crowdfunding qui sera Patreon. Donc on espère que peut-être il y aura d'autres en tout cas moi je l'espère, d'autres acteurs qui viendront sur ce segment-là, parce que bon, c'est bien aussi d'avoir un peu de diversité. Et c'est presque dommage, finalement, de voir que ce Subable n'a pas réussi à continuer à survivre parallèlement à Patreon. Voilà, c'était ma petite
Il
news.
y a petite,
Ouais.
petite, enfin deux petites remarques qui me viennent à l'esprit. Niveau autre site, enfin autre site, service du type, il y en a un qui existe, mais je pense, je sais pas si c'est exactement pareil, mais c'est Tipeee. Je sais pas si tu as déjà entendu parler.
Du tout, non.
Ça, voilà, donc ça permet ce genre de choses en fait. Donc tu mets un tip, donc c'est-à-dire un petit montant par épisode. Sur des créateurs de contenu. D'ailleurs, il y en a quelques-uns assez célèbres sur YouTube, comme Benzaï, Usul, Fossoyeur du film, ce genre de gens, ce genre de personnes, genre, qui sont dessus. Et donc, voilà, tu mets un petit tip par épisode, et à chaque épisode publié, ben, ton tip est prélevé, quoi. Donc, c'est un peu le même système, voilà. Il existe quand même un petit concurrent. Et
Ouais.
l'autre question qui me venait à l'esprit, c'est à la base, la plateforme Subbabble, difficile à prononcer, a été fondée, si j'ai bien lu par dans ta news, par YouTube, donc Google. Et donc c'est à se demander un peu pourquoi Google, comme ça, en fermant un service, refile un peu le cœur de métier, je veux dire, à Patreon. On va dire que leur habitude, c'est plutôt généralement de faire l'inverse, de
Je suis assez
reprendre une société comme
d'accord.
Patreon et d'en faire quelque chose
Je
intégré
suis assez
chez eux.
d'accord, mais finalement, alors dans d'autres mesures, mais Subable en tant que plateforme va donc rejoindre la montagne de projets Google qui finira aux oubliettes. Si ce n'est que là, cette fois-ci, le contenu va être récupéré par concurrent, si on peut dire. Ça me fait penser en fait un peu à la fin de Google Reader, où ils ont pas mal mis en avant un certain nombre d'alternatives. Je ne sais pas si tu te souviens de la fermeture de Google Reader,
Si,
mais
mais je suis passé sur
ils ont
Feedly grâce à ce genre de mise en avant.
exactement, ils ont naturellement accepté et même incité les gens à faire des ponts vers des plateformes cibles concurrentes en quelque sorte. Et donc en fait, je le vois plutôt dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'a priori, ils n'étaient pas capables de, enfin pas capables, ils n'avaient plus l'intention de soutenir la plateforme, et face à Patreon qui proposait un service vraiment similaire, ils se sont dit que le fait de transférer ce contenu sur la plateforme Patreon était une manière logique de réagir finalement.
Ouais, mais ce que je vois ici de dommage, enfin de dommage, façon de parler, c'est qu'en fait, je me rends compte que Google s'est définitivement axé sur le business model de la pub. Ils ont une plateforme avec YouTube géniale qu'ils essaient de rentabiliser depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, petit erratum au passage, dernier épisode, je crois que j'ai dit que YouTube était rentable et apparemment, j'ai entendu que ce ne serait pas le cas. C'est pas encore le cas. Bref, et donc voilà. Il y avait une opportunité de financement un peu différente de la pub, qui permettait aux créateurs YouTube justement de profiter encore davantage de revenus, de pouvoir trouver d'autres systèmes, de pouvoir s'affranchir de ces pubs et de toutes les questions que ça pose actuellement. Et voilà, ils abandonnent, donc ça montre bien que vraiment leur cœur de métier c'est la pub et qui j'ai pas l'impression qu'ils comptent s'orienter vers d'autres choses. Bon, c'est peut-être, je trouve peut-être, mais bref, voilà, c'est un petit. un mini coup de gueule, on va dire ça. Bon, de suivante. Ben, c'est à moi, en fait. J'allais vous parler de Shazam. Donc, je pense que tout le monde connaît, hein, Shazam, c'est cette célèbre appli qui permet de découvrir, d'identifier, j'y arriverai, un morceau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est assez génial, hein. Vous lancez l'application quand il y a une musique qui est en train d'être jouée. Vous faites écouter la musique à votre smartphone pendant quelques secondes et l'application va vous identifier, le morceau dont il s'agit, vous indiquer l'auteur, vous donner toutes les infos qu'il faut. Donc, depuis quelque temps, Shazam, essaye de se diversifier. Ils avaient déjà testé il y a quelques mois d'ici, si j'ai pas de bêtises, mois ou années, je sais plus. Enfin, ils avaient lancé un chantier de test pour identifier en fait les vêtements dans les séries télé. Donc ça permettait essentiellement aux États-Unis, hein, en scannant ce qui passait à la télé, Shazam identifiait via des images de quel show il s'agissait et renvoyait vers le lien pour pouvoir acheter les vêtements des acteurs, actrices en question. Bon, voilà, un business model comme un autre, parce que je pense que apparemment il y a énormément de gens qui sont intéressés par ce genre de choses. Et bien, s'ils ont décidé de pousser encore plus loin, puisqu'ils ont décidé que Shazam voulait reconnaître tout en fait. Ils parlent des objets, mais au final, quand tu lis leur description, c'est tout. Ce qu'ils veulent en fait, c'est que. Enfin, ce qu'ils veulent. Selon eux, Shazam est déjà un verbe. Bon, ça, à mon avis, c'est plutôt aux États-Unis, parce que chez nous. J'ai rarement entendu quelqu'un dire je vais shazammer quelque chose. M'arrête si je me trompe, mais voilà.
Oh, je l'ai déjà entendu, si, si.
Oui, t'as entendu je vais shazammer quelque chose. Ah ouais, moi pas.
Si, si, c'est. Ouais, alors c'est pas courant, courant, mais en tout cas, c'est un réflexe. Alors, le terme, peut-être pas, mais l'action de le faire, si, si, je l'ai
Ben,
déjà.
l'action, oui, maintenant, je pense que c'est plutôt aux États-Unis où ils doivent dire tout shazam ou voilà. Et donc. Bref, ici, leur idée, ben, c'est que ce terme se conjugue à tout, pas seulement à la musique, en fait. Donc, qu'on puisse shazammer, en fait, beaucoup plus de choses. Donc, n'importe, je sais pas, par exemple, ça mettra à profit le capteur photo de l'appareil, du téléphone, pardon, ainsi que le capteur audio pour scanner, je sais pas, des meubles, que ce soit en vrai ou dans une série TV à nouveau, par exemple. Une boîte de céréales par exemple, il pourra vous renvoyer à la fiche Wikipédia, vous donner une liste d'ingrédients, vous donner les meilleurs prix dans les différents supermarchés. Enfin, selon eux, ça va être vraiment sans limite. Bon, je ne sais pas comment ils vont arriver à implémenter tout ça parce que bon, les objets dans la vie réelle, je ne sais pas si j'ai déjà essayé de tenir le compte, mais il y en a quand même un petit paquet. Ça va pas être évident. Mais en attendant, au niveau business model, s'ils y parviennent, c'est quand même vachement intéressant. Parce que ça veut dire que n'importe quelle chose, n'importe quel objet dont tu ne sauras pas la provenance, si tu as envie de l'avoir, tu le scannes et Shazam est là pour te fournir derrière le moyen de l'acheter. Et ça, c'est quand même assez fort. Donc s'ils y arrivent, honnêtement, ça peut être assez impressionnant, je pense. À voir. Après, sur l'article en question que j'ai noté, j'ai adoré le deuxième commentaire où une personne se demande si Shazam arrivera à reconnaître si la robe est blanche dorée ou bleue et noire. Ça c'est encore une autre histoire. Donc, je ne sais pas si tu y crois, toi, si tu crois qu'ils vont arriver quand même.
Alors oui, j'y crois. Après, ça me fait penser quand même au service proposé par Google via leur application de
Googles, oui,
jeux photo.
justement. C'est ça qui m'a
Voilà.
fait un peu peur, c'est que
Et...
Google le fait avec Googles, pas facile à dire les deux en même temps. Et j'utilise Google assez fréquemment et je dois avouer qu'il a quand même ses limites, quoi. Donc si même Google trouve des limites, je me
Exactement.
demande si Shazam va y parvenir.
Après, effectivement, on les connaît, ça reste leur cœur de métier, en tout cas, ce qui est de la reconnaissance audio. Bon, le pont, ça serait un peu facile de faire un pont rapide en disant leur cœur de métier, c'est tout ce qui est reconnaissance, et du coup, a priori, ils vont être bons aussi dans l'image. Je pense qu'on peut difficilement dire ça. Et on peut aussi difficilement dire qu'ils auront la force de frappe suffisante pour être encore plus pertinents qu'un outil développé par Google, si ce n'est que je pense que Google n'a pas forcément mis énormément de moyens dessus. C'est pas en tout cas un service qu'ils ont fortement poussé et sur lequel ils ont énormément d'espoir, je pense, aujourd'hui. Si Shazam considère que c'est réellement son cœur de métier et qu'ils veulent trouver des usages autour et que l'expérience soit vraiment plaisante, il y a peut-être des choses à faire.
Peut-être, qui sait. Maintenant, Google est quand même le spécialiste aussi de la recherche, donc on se dirait ils parviennent à faire des comparaisons, notamment d'images dans Google Images. Tu mets une image dans Google Images, il arrive à trouver des concordances, à trouver ce qui se trouve dessus. Donc ils
Oui.
sont quand même pas non plus les derniers sur le sujet, quand même. Mais bon, je demande à voir. Voilà, c'est
Complètement.
un bon business model en soi, c'est une bonne idée d'extension. Je demande à voir.
Exactement. Je vais enchaîner du coup avec une news, mais avant ça, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir au moment où on en parlait et je me posais la question de la news juste avant, où j'ai dit, je pense, un peu trop rapidement. Que Subbable était un service d'abonnement fondé par YouTube. Je pense que c'est une erreur de ma part, parce qu'après vérification, c'est un service qui a été fondé par une star de YouTube, Hank Green et son frère John Green, qui étaient des stars de YouTube et qui ont donc créé une plateforme qui s'appuyait sur YouTube pour financer d'autres stars de YouTube, ou en tout cas des producteurs populaires sur YouTube. Donc, mea culpa assez rapide. Je ne sais pas pourquoi ça s'est tombé dans mes notes comme ça au final, mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas été fondé par YouTube et donc encore moins par Google. Mais du coup, le service a bien été fondé par comment on appelle, une star de YouTube et du coup, ça n'était pas un service de Google. Je m'excuse, mais je vais quand même poursuivre du coup sur YouTube. YouTube qui a annoncé le remplacement des annotations qui historiquement étaient dans leur lecteur vidéo sur le web. Donc vous les avez sûrement déjà vus un certain nombre de fois. C'est ces espèces d'encarts. Pas très jolies qui apparaissent sur les vidéos lorsque vous les jouez et qui permettent d'afficher des liens, d'afficher du contenu supplémentaire, des encarts pour s'inscrire à la page YouTube de la personne, etc. Et Google s'est enfin rendu compte qu'effectivement ce type d'encart n'était pas forcément tout à fait au goût du jour et même esthétiquement et même dans la technique employée, en l'occurrence, si vous utilisez YouTube sur vos téléphones, vous êtes déjà rendu compte qu'il n'y a pas ces encarts-là. Ça n'a pas été porté. Alors, je ne sais pas exactement les raisons, c'est sûrement des raisons entre Flash, HTML5 et autres. Quoi qu'il en soit, ils ont annoncé donc ce qu'ils appellent les cartes, qui seront les remplaçants des annotations. au fur et à mesure. Donc les deux vont cohabiter pendant un certain temps et au fur et à mesure, les cartes vont complètement remplacer les annotations. Les différences principales, c'est qu'elles sont plus esthétiques. Alors après, ça reste une question de goût, mais effectivement, elles ont été un peu mieux pensées à la base, plus flexibles, ou en tout cas, ça, c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas exactement concrètement ce que ça va proposer en plus en termes de flexibilité. Mais surtout et principalement, elles s'afficheront sans aucun problème sur l'ensemble des écrans mobiles. Et ça, c'est une grosse, grosse différence. Et je pense que c'est quand même ce pourquoi ils ont fait effectuer ce changement. Du coup, ce qu'ils vont proposer, c'est 6 types de cartes différents qui seront mis à la disposition des créateurs sur l'éditeur YouTube. Alors, ils les ont listés. Il y a merchandising, fundraising, vidéo, playlist. Website associé et fan funding. Donc ça va s'élargir aussi avec le temps. L'idée, c'est vraiment de proposer un service équivalent aux anciennes annotations, si ce n'est plus en termes de possibilités, et de rajouter à ça l'esthétique et la disponibilité sur tous les écrans. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui, je pense, est quand même importante parce que c'était bien un des éléments qui était vraiment vieillot sur le lecteur de YouTube.
Oh oui, oh oui.
Donc voilà, c'était ma petite news.
Non, mais
Et on
j'aime
continue.
bien juste
Ouais.
une petite, un petit aparté, mais j'ai toujours trouvé ça horrible quand tu as des super vidéos, franchement, de certains youtubeurs. Il y a certains qui font un boulot monstre. Je pense que je ferai une émission d'ailleurs un jour là-dessus. Et je trouve toujours ça horrible d'avoir ces notifications qui apparaissent partout. Ça te gâche vraiment, vraiment tout le truc, quoi. Donc. Ça ne peut être que du bon.
Alors après, est-ce que ça sera moins intrusif? Pas forcément, mais en tout cas, ce sera moins moche.
Oui, c'est
Donc il
ça.
y aura peut-être moyen. En fait, je pense que l'idée, c'est de proposer. En fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est que je trouve que ces annotations-là sont par définition très dissociées du contenu et on se rend compte, alors c'était peut-être une volonté, mais que la notation ne fait pas partie intégrante, enfin inhérente du contenu qu'on est en train de regarder. Et ça, c'est assez drôle. Et je me dis que s'ils ont voilà, des designs de notation un peu plus sympa et qu'on a un peu plus la main dessus, donc enfin de carte, pardon, on pourra l'intégrer à la vidéo comme étant juste un montage spécifique sur la vidéo qui permet d'ajouter du contenu avec en plus de ça un peu d'interactivité. Je pense que ça serait intéressant si on arrive à ce degré-là d'intégration dans les vidéos.
Après, il y a certains quand même qui arrivent à faire des choses pas trop moches avec ça. Il faut, voilà, il y en a qui travaillent quand même, qui vont jusqu'à travailler cet aspect-là. Mais c'est vrai que la plupart du temps, burk. Voilà. Bon.
Exactement.
Assez rapide aussi, je passerai pas beaucoup de temps dessus. C'est de nouveau Google, décidément. Hein, dans le web, on a l'impression parfois qu'il y a que. qui a lancé une application d'organisation d'événements, comme ça, sans aucune annonce, sans rien. Donc pour le moment, elle est encore en bêta, hein. C'est pas une application qui est ouverte. D'ailleurs, quand vous la téléchargez, il y a un message qui indique que pour le moment, c'est confidentiel et que c'est pas encore vraiment utilisable. Mais bon, voilà, visiblement, ils vont se lancer sur ce créneau d'organisation d'événements avec un système. Tout intégré, assez bien présenté, où vous pourrez valider une participation ou non à un événement, scanner un QR code qui sera justement une invitation à cet événement pour marquer votre présence, voir les intervenants qui seront à cet événement ou dans cette conférence, admettons par exemple si on prend l'exemple d'une conférence. Voilà, une sorte de doodle, on va dire, pour en plus joli et en plus complet. D'ailleurs, petite question, parce que j'ai un doute sur le sujet. Doodle, ça appartient pas à Google, hein, non. Je me trompe.
Je ne pense pas, mais ça demande une vérification,
Parce que
effectivement.
j'ai un doute ici avant l'émission, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Honte à moi, hein, je m'en excuse. Mais bon, voilà. Je pense pas, mais non, il y a tellement de choses qui appartiennent à Google que pour finir, on ne sait plus.
Alors, a priori, non. Après une légère vérification très rapide, a priori, non. Pour le moment, je ne vois pas. C'est une société suisse. mais qui n'appartient pas à Google. Donc non, voilà, je confirme définitivement, c'est
Ça va.
indépendant,
Alors
en
si
tout
vous
cas.
voulez essayer l'application en question, ça s'appelle sur le store Interactive Event, ou en français, je crois qu'elle est nommée Événement. Voilà, ça vous pouvez aller essayer, mais c'est pour le moment, il n'y a pas grand-chose à essayer, mais au moins voir de quoi ça a l'air.
On essaiera. Je vais enchaîner avec Wipolo. Je ne sais pas si tu utilises le service ou tu as déjà utilisé le service.
Non, je ne me dis rien.
Non? Ok, alors. En fait, je l'ai mis dans les news parce que ça va un peu dans le sens d'un certain nombre de news que tu as évoquées dans les derniers épisodes qui utilisent le mail comme un outil ou en tout cas comme un vecteur à l'origine de diffusion et qui l'utilise intelligemment. Je m'explique. En tout cas, là, ça a même plutôt vocation à se détacher de l'utilisation du mail. Mais le principe, c'est que quand vous recevez, vous commandez un billet de train, un billet d'avion, ou tout type de voyage que vous organisez, vous allez recevoir un mail de confirmation dans votre boîte mail. Ce que propose le service Wipolo, alors à l'origine, parce que là la news, c'est qu'ils ont encore amélioré, mais à l'origine, c'est que en transférant ce mail-là à mail@wipolo.com, ce billet va venir intégrer une espèce de dashboard. Va être lu en fait, va être analysé. Il va intégrer une sorte de dashboard dans lequel vous pourrez suivre l'actualité, oui, l'actualité de vos trajets avec les horaires, les perturbations, les alertes en temps réel. Et donc vous avez la possibilité en fait de centraliser tous vos billets dans un seul dashboard. Ça va même un peu plus loin si vous l'intégrez avec Facebook parce que vous avez votre tableau de bord de voyage directement intégré à Facebook. Vous pouvez suivre les voyages que planifient vos amis, où ils ont été, où ils veulent aller. Vous pouvez taguer des amis sur des voyages, etc. Et ça va un peu plus loin. Mais donc voilà, l'idée c'est de récupérer les mails, de les faire analyser par Wipolo et Wipolo les intègre à un dashboard intelligent. La nouveauté qu'ils viennent d'annoncer, et en fait c'est parce que j'ai reçu un gentil mail de leur part m'expliquant qu'ils venaient d'intégrer la nouveauté, donc j'en parle, c'est qu'il est désormais possible de synchroniser votre boîte mail directement avec Wipolo. Alors ça marche avec Gmail, je ne sais pas si ça marche avec d'autres, mais en tout cas ils ont un droit en lecture et ils sont capables d'identifier sur un certain nombre d'acteurs. De l'aviation, des transports terrestres, etc. Le mail dans votre boîte mail et du coup, il sera automatiquement importé en quelque sorte sur votre dashboard et dès que vous avez réservé un billet d'avion, vous n'avez plus rien à faire, tout sera traité et intégré directement à Wipolo. Vous l'aurez sur votre application Wipolo sur smartphone. Vous allez recevoir les alertes, les évolutions dans le temps, etc. La seule petite question éventuellement que ça pose, évidemment, c'est que vous donnez encore accès en lecture à votre boîte mail à un nouveau service. Et pour certaines personnes, ça peut éventuellement poser des problèmes. Voilà, est-ce
Effectivement.
que ça t'a donné envie de l'essayer quand même?
Je voyage pas assez. Je connaissais le service, mais voilà, avec la famille, tout ça, je fais un
Oui, je
voyage
pense
par
qu'il faut
an qui est
y.
déjà organisé, qui est
Tout à fait, c'est pour un segment de population assez spécifique, mais c'est intéressant malgré
Ah,
tout.
pour des gens un peu plus globe-trotteurs ou qui aiment partir un peu à l'aventure, je pense que ça peut être effectivement génial. Tiens, je confirme. Donc voilà, à essayer.
Yes.
Bon, dernière news, alors pour
Ouais.
ce petit segment, c'est nos amis de chez Dailymotion. Donc Dailymotion qui est votre fleuron français. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, pardon, de la petite histoire, Dailymotion avait failli être racheté par Yahoo, qui s'était montré très très intéressé. Et disons que j'ai un trou sur le nom du ministre et de moi, pourtant il est très connu.
C'était Arnaud
Arnaud
Montebourg, je
Montebourg,
crois.
alléluia, c'était un peu mis en
Enfin,
opposition.
alléluia.
Non, mais Alléluia, on va t'y trouver le nom.
Oui, d'accord, on est d'accord.
Donc, il avait un peu fait capoter la chose essayant de prétexter que voilà, Dailymotion était un fleuron franco-français qui avait déjà peu dans la tech, qu'il ne fallait pas céder ça à des Américains. Et c'était arrangé pour que Orange entre un peu plus au capital et que voilà, Dailymotion reste français. Et on apprend ici, dans des news assez récentes, que Orange est en train de réfléchir à laisser une bonne grosse partie de Dailymotion à un groupe chinois. Donc, comme quoi le fleuron franco-français, voilà. Donc, la société, enfin, le fonds qui investirait s'appelle le PCCW. Bon, si vous avez déjà entendu parler, tant mieux pour vous. Et le but derrière tout ça, ce serait, bon, bien évidemment, de permettre un peu, de récupérer un peu d'argent sur Dailymotion, mais aussi de consolider les parts du service en Asie. Puisqu'apparemment Dailymotion serait très très utilisé et très très fort en Asie. Évidemment, dans le reste du monde, aux États-Unis, c'est un peu plus délicat, surtout quand on s'oppose à un géant comme YouTube.
Exactement. Mais en fait, alors j'ai pas exactement les chiffres, mais pour ne rien cacher, j'ai parlé avec quelqu'un de Dailymotion
Oh,
la semaine dernière,
news,
avec
breaking
qui
news.
on avec qui du coup on évoquait ces infos-là, et notamment parce qu'en ce moment ils sont aussi en train d'effectuer un changement de design, mais je te laisserai en parler. Je crois que tu voulais en parler. Mais du coup, en fait, alors il m'évoquait, et j'ai perdu le chiffre, que déjà aujourd'hui, je crois que c'est pas loin de 30% de leurs visiteurs proviennent d'Asie. Je me trompe peut-être, hein, c'est à confirmer, mais je crois que c'était ça qu'ils m'évoquaient. Donc déjà, ça c'est relativement intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une grande partie en fait de leurs visiteurs qui proviennent d'Asie. Et l'autre petite news intéressante, c'est que il m'évoquait que le fameux PCCW, alors je me souviens plus. Je me souvenais plus de ce nom, mais donc il a dû me dire PCCW. En réalité, possédait la marque Orange avant qu'elle soit rachetée par France Télécom, marque française donc de télécom, puis que France Télécom récupère donc le nom au final d'Orange. Et aujourd'hui, Orange, qui possède 51% des parts de Dailymotion, va céder 49%, ou en tout cas demain, ils posséderont plus que 51%, et vont recéder 49% à l'entreprise qui possédait Orange à l'origine. Donc c'est ça qui est relativement intéressant.
Oui, assez cocasse en effet. Ouais. Maintenant, bon, voilà, on a quoi se poser un peu des questions, de se dire est-ce qu'au final le destin de Dailymotion n'aurait pas été plus intéressant si ils avaient été repris par Yahoo. Bon, c'est une autre histoire. Maintenant, ce qui me fait rire aussi, c'est que présente ça comme justement une alternative, ce qu'on appelle donc les GAFA, donc les principales sociétés en matière de high-tech. Je suis pas convaincu qu'un gros consortium chinois comme celui-là soit réellement l'alternative à avoir. Surtout que comment le oui, surtout pardon, quand on voyait cette volonté de rester franco-français et puis tout d'un coup de s'ouvrir à la Chine. Enfin, je sais pas, j'émets des gros doutes sur la question, mais non, bon, c'est de l'argent, l'argent c'est de l'argent, si ça leur permet de se développer, pourquoi pas, hein, effectivement. Après, tu...
Oui, après les acteurs sur lesquels, enfin, les acteurs du marché sur lesquels ils vont se positionner sont peut-être finalement tout aussi virulents que le marché s'ils intégraient le marché français, le marché américain, pardon. C'est-à-dire que je pense que Youku est déjà quand même très présent sur son marché et que ça reste de très gros compétiteurs. Donc je ne suis pas forcément sûr en plus que ce soit un marché plus simple. Que s'ils avaient attaqué le marché américain. Et en plus de ça, je suis pas sûr que le contenu. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on peut exploiter un contenu similaire si on est présent et sur le marché européen et sur le marché américain. Ça, alors c'est peut-être totalement stupide ce que je dis, mais j'ai quand même ce sentiment-là, que le contenu peut être similaire et qu'en fait ça peut intéresser mutuellement les deux populations, ce qui n'est pas forcément le cas du marché asiatique et du marché européen si on les fait cohabiter sur une même plateforme. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir en tout cas exploiter ce facteur-là en étant et sur l'Asie et sur l'Europe. Je ne sais pas si ce que tu en penses, si toi par exemple tu consultes du contenu qui provient d'Asie, c'est quand même, il y a une véritable frontière qui est créée qui est peut-être moins présente par rapport aux États-Unis. Enfin, même Amérique, le continent américain en règle générale, mais principalement les États-Unis et l'Europe.
Ouais, je pense, je connais beaucoup de gens qui consultent du contenu asiatique, hein, c'est pas ça, ça a été très à la mode à un moment, mais je pense aussi que sur ce genre de segment de vidéos plus amateur, on va dire, plus contenu web, il y a encore une grosse distinction, oui, je pense clairement. Mais bon, ils ont peut-être leur carte à jouer, et ils savent, j'espère pour eux, ils savent quand même ce qu'ils font. Mais bon, de toute
Oui,
façon,
je pense.
Dailymotion, honnêtement, je me souviens pas la dernière fois que j'ai ouvert. En me disant, tiens, je vais aller chercher une vidéo, je vais aller sur Dailymotion. La seule fois où j'arrive sur Dailymotion, c'est quand un lien vers une vidéo m'y mène, quoi. Quand la personne a publié sur Dailymotion et que j'ai pas d'autre choix que d'aller par là. C'est malheureusement le constat de beaucoup de monde, ce que j'entends dans mon entourage et dans les gens qui fréquentent le web. Demain.
Oui, alors après, ça peut être, il y a plusieurs raisons à ça. Alors déjà, effectivement, moi, c'est un peu les mêmes raisons qui font que majoritairement j'utilise YouTube. Après, il y a du contenu exclusif que j'aime bien chez Dailymotion, des
Ouais,
web-séries, des
mais
choses un peu
il est
spécifiques où je
rare quand
sais
même.
qu'elles sont hébergées chez eux. C'est relativement rare. Et il y avait surtout quelque chose qui ne me motivait pas à y aller et qui a tendance à changer. C'est donc d'une part l'interface, mais principalement le lecteur, qui était quand même très en deçà de ce que proposait notamment YouTube. Et donc, c'est ce qu'on vous a annoncé tout à l'heure, mais je ne sais pas si on n'a pas tout à fait détaillé. Ils
Non.
ont majoritairement en fait changé non seulement l'interface utilisateur, mais aussi ils proposent un nouveau lecteur qui, je pense, est encore en bêta, mais vous pouvez l'activer. Qui est quand même beaucoup plus léger que l'ancien, un peu beaucoup plus dans l'air du temps, et ça change pas mal la donne. Moi, je trouve finalement, c'est assez bête, mais un temps de chargement d'un lecteur peut changer fondamentalement la manière d'appréhender une plateforme de streaming, la réactivité d'un lecteur aussi. Donc ça, c'est assez important, je pense. Qu'ils aient effectué ce changement-là. Et le changement de l'interface dans son ensemble, moi je le trouve relativement bien. Ce qui est drôle, c'est que je vous avais parlé il y a deux épisodes ou trois épisodes de la création de Dailymotion Games. Je ne sais pas si à l'époque tu avais été voir, mais en fait l'interface de Dailymotion Games était
Single
déjà.
maintenant, oui.
Voilà, une bêta de ce qu'ils allaient finalement réutiliser pour leur site principal. Donc c'est assez drôle de voir qu'ils ont, voilà, ils ont fait une bêta à taille réelle sur un de leurs sous-sites qu'ils avaient créé et ils l'ont finalement réintégré.
Maintenant, YouTube est quand même tellement déjà bon dans ce qu'ils font, tellement complet avec tellement de contenu. Et ils sont en train d'ajouter tout un tas de petites nouveautés pour proposer encore plus de qualité. Voilà, bon, bref, ça c'est un éternel débat, Dailymotion
Non,
versus
non, mais
YouTube,
complètement. Non,
mais.
non, mais après, moi c'est vraiment, et un peu comme quand on voit Patreon et Subbable qui s'unissent, je suis plutôt pour le fait qu'il y ait plusieurs acteurs, notamment parce que, enfin, pour moi, l'essence même, justement, du web, c'est d'avoir à chaque fois une diversité de plateformes, de ne pas avoir un élément central qui contrôle tout sur un segment donné. Malheureusement, ça devient de plus en plus ça. Il y avait quand même des très très gros acteurs, donc les GAFA en sont les porte-étendards. Mais j'aime bien savoir qu'il peut y avoir des plateformes alternatives qui ne sont pas toutes forcément aux États-Unis et avec un peu de patriotisme en plus si c'est français.
C'est peut-être ça aussi, toi, c'est ton cœur de patriote qui parle. Moi, tout de suite, beaucoup moins.
Exactement.
Si.
Enfin bon, on a fait suffisamment longtemps, peut-être qu'on va
Sinon,
arrêter
tout à fait, je
avec.
voulais juste conclure par le fait
Ouais.
de la petite anecdote. Dailymotion fête ses 10 ans. Nous, c'est notre 10e épisode. Donc voilà, c'est un signe, je pense.
D'accord, bon, je ne suis pas sûr de comprendre le signe, mais très bien. On laissera les auditeurs essayer de voir le signe qu'il peut y
Moi
avoir.
non plus à vrai dire. Bon, allez, sur cette dérive, nous allons partir sur les projets du web, donc les différents projets que nous allons essayer de vous présenter un peu plus en détail. Et je commence, bah tiens, en fait, je me rends compte que je commence les sections avec un chantier qui a été amorcé par le site Next Impact. Donc je sais pas, déjà, tu connais, tu lis Next Impact, je pense que tu as déjà quand même dû passer dessus, même à l'époque ça s'appelait PC
Oui, ça
Impact.
fait exactement. Oui, non, c'est dans mes flux RSS.
Voilà, donc c'est un site très connu qui parle beaucoup de high-tech. Et donc ça fait un petit temps qu'ils ont amorcé en fait une certaine mutation pour devenir de plus en plus un média à part entière, avec un business model un peu à la arrêt sur image, pour ceux qui connaissent, donc un business model d'abonnement, car oui. Il le prouve parmi d'autres, il y a bien des gens sur Internet qui sont prêts à payer pour avoir du contenu de qualité. Ça existe. Et donc, pour pousser de plus en plus loin un peu tout ça, ben, ils ont fait de petites choses, mais ici, ils ont un gros projet qui est dans les cartons depuis assez longtemps et dont on entend vaguement parler. Et là, ça y est, ils l'ont annoncé. C'est un projet qui s'appelle La Presse Libre, tout simplement. Et dont le but en fait sera d'unifier les services de presse en ligne à travers différents outils et surtout à travers un système d'abonnement unique. Donc ça part d'un constat tout bête et tout simple, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas un seul endroit où tous ces services sont tous réunis, sont synchronisés, sont accessibles ensemble via une plateforme. Donc tu dois les découvrir un peu un par un si tu veux t'abonner à Arrêt sur image, tu fais leur système d'abonnement. Tu veux ensuite aller, je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, Mediapart par exemple. Enfin, bon, ils commencent tous les deux ensemble ils avaient déjà commencé un peu à s'unir, mais tu dois t'abonner sur Mediapart. Tu veux. Et chaque fois, tu dois te découvrir par toi-même, aller d'un à l'autre. Contrairement, par exemple, c'est l'allégorie qu'ils utilisent beaucoup, à kiosque, à journaux par exemple, ou quand tu vas pour acheter ton magazine de jeux vidéo. Admettons, j'y vais le Mac pour les saluer. J'achète tous les mois, je vous adore. Donc pour acheter par exemple j'y vais le Mag, ben, en arrivant en kiosque, tu vas te retrouver face à une pléthore d'autres magazines du style et découvrir peut-être, te dire, ah tiens, celui-là en fait il a l'air intéressant, tu vas peut-être essayer, tu vas peut-être. Donc voilà, ici la presse libre, ce serait un peu le kiosque en question. Donc on arriverait là-dessus, on pourrait se dire, tiens voilà, je viens par Next Impact, admettons que j'adore. J'arrive sur cette plateforme, ah, je découvre qu'il y en a un qui s'appelle Arrêt sur image, tiens. Allons voir, je découvre le contenu. Oh, c'est intéressant. Ah bah tiens, via la même plateforme, j'ajoute un tout petit prix et je me retrouve avec un package où j'ai en même temps Next Impact, en même temps Arrêt sur image, et en même temps Mediapart par exemple, et un abonnement à Canard PC. Ah bah hop, j'ajoute. Et je trouvais vraiment l'idée assez géniale. Et vraiment dans un but de pouvoir fournir comme ça une alternative un peu à ce qu'on trouve, parce que bon, il existe hein, des systèmes du genre qui ont déjà été créés par nos amis, justement les GAFA. Google, par exemple, on ne peut pas le citer, avait créé Google Kiosk. C'est tellement peu mis en avant, c'est tellement peu sélectionné au niveau du contenu, c'est tellement brouillon et tellement peu. Ils investissent tellement peu là-dedans que. Tandis qu'ici, on a vraiment voilà, des vrais acteurs du web avec des contenus vraiment pertinents, des communautés déjà imposées qui vont proposer leur savoir-faire en la matière et voilà, permettre d'accéder à d'autres médias et permettre à peut-être, qui sait, à d'autres sites du genre et d'autres médias d'éclore. On l'espère.
Ouais, non, c'est une bonne idée. Éventuellement, je pense que si vraiment je voulais pinailler, j'aurais encore plus aimé que ce soit une initiative d'un tiers qui ne soit pas lui-même partie prenante des médias, que ce ne soit pas à l'origine d'un média lui-même. Après, évidemment, si c'est un tiers, faut qu'il trouve un intérêt financier. Et ça pose d'autres problèmes, mais c'est plutôt pour le côté vraiment neutre de l'intermédiaire qui met en place justement cette plateforme. Mais non, globalement, c'est une super initiative et Non, je pense qu'on ne peut que saluer ce genre d'initiative et ça donne à voir plein de choses. C'est super. C'est des bons
Non,
conseils.
effectivement, mais c'est vrai que oui, tu as raison, effectivement, c'est vrai qu'on peut se poser quand même la question du parti pris derrière tout ça, parce que bon, ils ont quand même leur propre contenu à défendre, donc c'est vrai que si c'est eux qui lancent ça, qu'est-ce qu'ils ne nous garantissent pas, voilà, que ça va être mis beaucoup plus en avant, ou qu'ils vont favoriser un peu les copains, oui. Effectivement, on peut voir un peu le conflit d'intérêts, mais l'initiative est là, en effet, et voilà, à voir ce qu'elle fera éclore, hein. Peut-être qu'elle fera éclore tout un business model, moi je l'espère en tout cas, un business model du payant sur Internet et qui permette à des vrais pure players de commencer un peu plus à naître et de proposer toujours plus de contenu. Enfin, c'est ce que j'espère.
Exactement. Non, c'est une très bonne chose. Je vais enchaîner parce qu'on
Oh, mais c'est pas
prend.
grave, nos auditeurs nous aiment bien. Dites-nous aussi d'ailleurs ça, si le format vous plaît ou si vous
Si
le
le
trouvez trop
format, ouais.
long, trop court, n'hésitez pas. Voilà, aussi.
Exactement. Donc je vais quand même enchaîner. Alors, j'ai hésité longtemps entre mettre cette information-là dans les news ou dans les projets. Finalement, je l'ai mis dans les projets, mais finalement, il faut le considérer plutôt comme un nouveau départ pour un projet déjà existant. Je parle en fait de Uniland, c'est pas très connu, moi en tout cas, je ne connaissais pas avant. Dans le monde du crowdfunding, très spécifiquement, peut-être que certaines
Jamais
personnes
entendu
connaissent,
parler.
mais en fait, jamais entendu parler. Bon, très bien, ça tombe bien. En tout cas, c'est pour eux un nouveau départ parce que l'information derrière, c'est ils viennent de faire une levée de fonds de 8 millions d'euros pour s'étendre à l'Europe. Parce que enfin, l'origine est française et c'était sur le marché français. Mais ils ont fait un plan d'investissement visant à se développer sur le continent européen et il y a un certain nombre d'acteurs. Alors, Ventec, BPI France, 360 Capital Partners qui ont été sélectionnés pour réaliser la levée de fonds qui leur permettra de se développer à l'Europe. Je vais vous expliquer juste un peu de quoi on parle parce qu'au final, je n'ai toujours pas dit. C'est du crowdfunding, mais autrement, c'est comme ça que je l'appellerais. En fait, cette start-up française propose au grand public, donc à vous, à toi, à moi, à n'importe qui, de financer des projets de petites et moyennes entreprises contre rémunération. Jusque-là, vous allez me dire, c'est quand même assez similaire à du crowdfunding, si ce n'est que déjà c'est contre rémunération et pas contre un reward physique, donc l'achat de quelque chose. Et en fait, on parle bien ici d'un système de prêt. Donc vous êtes un intermédiaire au même titre qu'une banque. La plateforme, elle vous permet donc de prêter de l'argent à cette PME en échange d'un taux d'intérêt que vous allez vous-même fixer en fait. Et donc vous pouvez évidemment le faire dans l'autre sens si vous êtes une PME, c'est-à-dire emprunter auprès de particuliers assez rapidement, sans trop de difficultés, à des taux fixés par les particuliers eux-mêmes, donc proposés par des particuliers. Et donc, il y a déjà eu plus de 9 millions d'euros qui ont été empruntés sur la plateforme depuis qu'elle existe. Et en fait, la vraie valeur ajoutée, c'est qu'elle permet de se situer à la marge du principe de base de je suis entrepreneur, je vais voir ma banque, elle m'impose un taux, je prends ou je prends pas, etc. Elle permet en fait de casser un peu ce système-là. Après, alors, à très grande échelle, si ça ne peut pas avoir des impacts négatifs sur le marché, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant de voir que ça existe. Et donc là, à mon avis, c'est un vrai nouveau départ pour eux, puisqu'ils vont s'étendre sur toute l'Europe pour étendre le concept. La question que je me pose, c'est même. Alors déjà, j'avais été étonné quand j'ai lu la news de savoir que c'était possible de faire ça en France, parce que je ne pensais pas qu'un particulier pouvait avoir en quelque sorte un statut d'institut financier, enfin d'institut bancaire, donc
Ça
de prêter de l'argent à un taux donné à quelqu'un. Je ne pensais pas que c'était
existe déjà en
possible.
fait. Bon, je
D'accord.
parlais
Et
en fait.
alors, pour l'Europe, je ne sais pas s'ils vont pas avoir des difficultés, par contre, au niveau législatif, suivant certains pays, pour venir
Ça, par
s'installer.
contre, c'est vrai, oui.
Donc,
Ça, c'est la bonne question, effectivement. Mais
Tu me dis que
Bah,
ça existe
oui,
déjà?
enfin, je pense que c'est le même style, si j'ai bien compris le principe. Mais les gens de chez KissKiss Bank Bank, que tu dois connaître, ont plusieurs sites de financement participatif avec différents thèmes, en fait. Ils ont notamment, ils ont deux qui me font penser à ce projet-là. Ils en ont un qui s'appelle Hello Merci, qui permet justement aux gens de proposer leur projet et de se voir financer par d'autres particuliers pour ensuite les rembourser selon un rythme qu'ils ont déterminé au départ. Donc un peu le même système, je pense. Et ils ont l'Endopolis qui permet la même chose pour les entreprises. Donc aux entreprises en fait de proposer un projet et de se voir financer par des investisseurs. Je pense que c'est plutôt Hello Merci qui se rapproche
Oui, non, c'est assez similaire. Après, en fait, mais moi, c'est même dans les termes qu'ils emploient, c'est un peu bête parce qu'effectivement, sur le fond, il doit y avoir des choses similaires. Mais quand vous allez sur leur site, vous voyez bien donc ils parlent ouvertement de prêts avec des taux. C'est des termes plutôt proches du monde de la finance et des banques. Et justement, dans le crowdfunding, on a tendance à s'écarter de ça. Là, ça fait assez sérieux, assez institut financier. Donc c'est drôle de les voir comme ça. Et donc ça m'a juste, je me suis juste posé la question en fait de la légalité et de comment ils ont pu encadrer légalement ce type
Ouais,
d'activité.
c'est assez curieux. À
Mais
mon avis, c'est
non.
eux qui se positionnent en tant qu'organisme de prêt. Enfin, je suppose que ça doit marcher comme ça.
Certainement, ouais. Finalement, oui, ça doit être ça,
Enfin
effectivement.
bon, voilà. On pourrait leur poser la question. On les invitera
Donc.
dans un prochain épisode.
Exactement. Voilà, à mon avis, avec un développement sur le marché européen et 8 millions d'euros qui viennent d'être injectés dans la société, je suppose qu'ils ont d'autres choses à faire que venir nous parler, mais éventuellement, s'ils nous entendent, ça pourrait être intéressant d'en discuter et puis donc affaire à suivre.
J'en
Affaire
ferai un
à
petit
suivre.
coucou sur Twitter, tiens. On va les avoir. Faut pas désespérer. Bon. très rapide, moi je vais pas m'attarder là-dessus, mais je tenais quand même à le mentionner. C'est l'ami Randall Flagg, pardon, sur Twitter qui m'a envoyé le lien. Enfin, qui nous a envoyé le lien, parce qu'il a tweeté au projet du web. Hein. C'est le site Kickandid, excuse-moi. Qui en fait est un site assez marrant puisqu'il référence tous les projets Kickstarter qui ont exactement atteint le palier de 0 euros pour 0 backers. Voilà. Donc c'est assez marrant, on peut aller faire un tour et voir des projets de manière assez random parce qu'apparemment il y en a énormément qui n'ont pas engrangé un seul dollar. Moi j'ai par exemple ici, je viens de tomber en le lançant sur un. Une personne qui proposait d'organiser un fan film festival de poissons chanteurs, où il serait diffusé des clips et des courts-métrages avec des poissons qui chantent. Bon, voilà, vous imaginez un peu le niveau des trucs. Mais voilà, c'était comique, je trouvais ça assez marrant. J'y vais de temps en temps juste actualiser un peu la page, voir ce qui me propose et ben, ce que les gens sont prêts à lancer. C'est parfois assez original. Donc merci Randall Flagg pour ton lien. Voilà, c'était tout.
Ok, très bien. Je vais enchaîner avec une campagne qui, elle, a récolté beaucoup plus que 0 euros, puisqu'elle a récolté, aux dernières nouvelles, j'ai pas actualisé, mais 345 000 dollars US. Donc, elle a été financée à peu près 2000% de ce qui était demandé. Et par contre, la campagne est terminée. Donc, je parle d'un projet dont la campagne est terminée. Vous pouvez encore en acheter. Et il s'agit de. Alors. J'ai dû le relire un certain nombre de fois parce qu'au début, j'y croyais pas vraiment. Il s'agit d'un spray qui vous aide à dormir. Ça s'appelle Sprayable Sleep. Et donc, c'est réellement un spray qui vous aide à dormir. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer en fait que à l'aide d'un petit flacon avec un liquide quelconque à l'intérieur, vous pchitez ça au niveau du cou. Juste avant d'aller au lit, et cela va vous aider à vous endormir beaucoup plus rapidement. Et même si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, vous pouvez redonner un petit coup de pchit et ça vous aidera à vous endormir. Alors, ils expliquent un certain nombre de situations dans lesquelles ça pourrait être tout à fait pertinent. Donc, vous n'êtes pas capable de dormir à cause du stress, par exemple, ou une insomnie due au décalage horaire, ou vous dormez dans un lit d'hôtel qui n'est pas le vôtre. Ou encore vous forcer à dormir plus tôt pour vous réveiller encore plus tôt le lendemain matin. Donc ça, évidemment, on sait tous que quand on sait qu'on doit se lever tôt le matin, on a plus de mal à s'endormir tôt le soir. Et enfin, un dernier exemple, votre partenaire ronfle, vous avez besoin de dormir malgré tout, eh bien, Spray-able sleep est là pour vous.
On dirait des téléachats, tu fais ça
Non, mais
bien.
c'est... Ah non, mais t'as vu comment je vends le projet? Non, mais parce que j'y ai tellement pas cru, en fait, en le voyant, que quand je le lisais, je le lisais dans ma tête un peu comme ça. C'est-à-dire quelque chose de complètement absurde qui, de toute manière, ne peut pas fonctionner. À vrai dire, je sais toujours pas si ça fonctionne ou pas. Quoi qu'il en soit, la campagne a complètement explosé les compteurs. Et ils expliquent après la composition chimique du produit. Donc il y a trois ingrédients en fait, simplement trois ingrédients dans ce spray. Le premier, c'est la mélatonine. C'est une molécule qui est naturellement produite par le corps, qui a priori c'est elle qui aide, qui provoque en fait l'endormissement. Et donc évidemment ils l'ont mis dans leur spray. Il y a de la tyrosine. C'est un dérivé d'un acide aminé naturel. Je ne connais pas vraiment son rôle dans l'affaire, mais c'est présent. Et de l'eau distillée, donc, qui n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est que c'est un spray, et du coup, on avait besoin de mettre de l'eau distillée à l'intérieur. Donc voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste des packs que vous pouvez continuer à acheter. Donc, pour 45 $ et plus 15 $ d'expédition en Europe. Pour une livraison août 2015, vous pouvez avoir trois bouteilles de spray. Ils expliquent que ça permet de tenir environ un trimestre. Je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul, mais bon, il faut croire que trois bouteilles, c'est un trimestre. Et donc voilà. Et moi, ce que j'aimerais savoir, parce que je ne pense pas l'acheter, pour tout vous dire, mais ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des gens dans notre entourage, des gens sur Twitter qui ont acheté, qui voudraient acheter, qui ont des véritables problèmes avec ça. Et j'ai vraiment envie de savoir si ça fonctionne parce que ça reste un grand mystère de Indiegogo pour moi, de la plateforme Indiegogo. Quand j'ai vu ça passer, je dois vous avouer que je n'y ai pas vraiment cru. Et j'attends vraiment d'avoir quelqu'un qui pourrait me faire un retour sur l'utilisation.
Effectivement, moi aussi je suis curieux. Même, je pense pas acheter non plus parce que j'ai pas de problème de sommeil, loin de là. Je dors même plutôt très très bien. Mais oui, je serais assez curieux.
Il te faudrait peut-être un spray pour te
Ou
réveiller.
pour ma femme parce qu'il paraît que je ronfle.
Hein.
Ce que j'adore aussi, c'est qu'ils vendent. Je vois qu'ils ont des packages avec carrément des lunettes, enfin un masque de sommeil, des lunettes permettant de bloquer la lumière. Enfin, j'ai vu tout un tas de trucs.
Oui. Après, c'est des outils qui paraissent. Alors, c'est pour le package complet, mais qui paraissent moins exceptionnels finalement. Là, le spray pour s'endormir, c'est quand même quelque chose qui m'a laissé vraiment sans voix. Je ne sais pas si ça, pourquoi ça n'existait pas avant, si effectivement.
Ça, c'est toujours la question qu'on se pose.
C'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas qui est derrière en fait ce projet-là. Et si réellement il y a. Parce que les personnes n'ont pas l'air d'être des personnes particulièrement connues.
Non, ils
C'est
sont
assez.
trois, c'est vrai que je n'ai jamais vu.
Il n'y a pas un organisme particulier derrière qui les soutient. Donc bon, voilà. Si vous êtes amené à le tester ou si dans votre entourage vous connaissez quelqu'un qui l'a testé, je suis vraiment dans l'attente de retour sur ce projet.
Ok, ben moi aussi, donc faites-nous en part dans les commentaires. On tweetera, on vous demandera ça par Twitter pour ceux qui sont passés à côté de cette partie de l'épisode. Bon. Eh bien, c'est à moi. Petite question que je vais te poser avant d'introduire le sujet. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à installer des logiciels où, par mégarde, tu as oublié de décocher ou tu as laissé installer en automatique et tu t'es retrouvé avec 36 000 toolbars ou avec des autres logiciels non désirés ou des.
Alors, je vais avoir une réponse qui va en faire crier plus d'un, mais je suis sur Mac et donc l'installation ne se déroule pas exactement comme sur un PC, c'est-à-dire qu'en glissant une application dans le dossier application, On me demande rarement quoi que ce soit, à vrai dire.
Oui, c'est vrai.
et les toolbars sur Safari n'existent pas. Donc double raison de me huer, parce qu'effectivement j'utilise en plus Safari en navigateur principal. mais donc non, j'ai jamais été confronté directement à ce genre de problème, sauf sur mon ordinateur pro, qui alors là, comme en plus je suis plus dans le monde PC depuis un certain temps, ça me hérisse le poil de voir ce nombre d'étapes à l'installation, des toolbars effectivement qui viennent s'installer. Et donc oui, dans ce contexte-là, ça m'est arrivé d'oublier de décocher des choses ou de cocher des choses qu'il ne
Eh
fallait
ben,
pas.
j'ai la solution alors pour toi, pour ton PC professionnel. Ça s'appelle une checkie, tout simplement, hein, qui certainement signifiait le contraire de check, donc de cocher. Et donc, c'est un petit logiciel en fait que tu installes sur ton PC et qui automatiquement identifie dans les différentes étapes d'installation des logiciels que tu peux télécharger tout ce qui n'est pas le logiciel lui-même, tout ce qui est offre de partenaire. Et les décoche automatiquement. Donc t'as plus besoin en fait de te soucier. Ils font la démo avec le célèbre uTorrent qui est assez célèbre parce que bon beaucoup utilisé, mais surtout parce qu'il y a eu une affaire ici récemment, je suppose que t'as un peu suivi, mais où ils étaient accusés d'installer en même temps que leur logiciel un miner pour Bitcoin qui donc transforme automatiquement ta machine si tu le laisses cocher en miner Bitcoin. Bon, c'est pas totalement ça au final, mais je vais pas commencer à entrer dans les détails, hein. Par contre, ça a un peu défrayé la chronique. Et c'est comme ça que je suis tombé d'ailleurs sur ce petit logiciel. Et donc voilà, bref, je disais, ils font la démo avec du uTorrent. Et j'ai essayé chez moi, effectivement, ça marche. Quand tu as ça du uTorrent avec ce logiciel sur ton PC, toutes les petites crasses qu'ils te proposent en même temps sont décochées.
Et alors, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que pendant l'installation de Unchecky, il y avait des cases à cocher?
Non, non, pour le coup, non, ça ils ont bien fait ça, mais non, peut-être qu'un jour ils le feront. Hein, la plupart, il faut savoir que beaucoup de logiciels se rémunèrent comme ça, hein. C'est via ce genre de partenariat, c'est une sorte de publicité très intrusive pour le coup, mais voilà, une sorte de publicité et ils se rémunèrent comme ça. C'est malheureux, mais voilà, c'est le cas. Mais non, ici pas de case à cocher, je vous rassure.
Bon, ben, c'est magnifique. Alors du coup, ça va être installé sur mon ordinateur pro, dès que
Mais ce
possible.
qu'il faut savoir aussi, c'est une petite chose quand même qui m'a marqué récemment, parce que, bon, comme beaucoup, hein, j'aide souvent dans la famille et autres sur des petits problèmes informatiques ou des installations, et je remarque en fait, même dans les plus grosses sociétés, un simple exemple, tu vas installer sur un PC Windows Flash ou Adobe Reader par exemple, si tu ne fais pas gaffe à ce que tu laisses cocher, tu te retrouves soit avec un logiciel McAfee antivirus en démo, sans que tu aies rien demandé à personne, voire même dans les pires des cas avec des toolbars. C'est quand même assez extraordinaire de se dire que même Adobe pratique, enfin utilise ce genre de pratique, quoi. Donc voilà.
Oui, non, mais c'est complètement affligeant. Quand on effectivement ce type d'activité que je pratique aussi, d'aller réparer des ordinateurs, soit dans l'entourage de mes parents, par exemple, qui ont des problèmes, l'ordinateur n'est plus aussi rapide qu'avant, et où au démarrage d'Internet Explorer, on se rend compte qu'en fait, on n'a plus que un dixième de l'écran disponible pour voir la
Et
page
surtout, ils ne
web.
savent pas du tout
Donc,
d'où ça vient, parce qu'ils font confiance, donc ils téléchargent le logiciel, ils font suivant, suivant, et voilà, c'est ça le pire.
Exactement. Mais ce qui est impressionnant, c'est vraiment que les gens sont capables de continuer à utiliser un navigateur avec vraiment un dixième d'espace libre pour la visibilité de la page web, et tout le reste, un empilement de toolbars complètement folle qui clignote dans tous les sens, qui occulte tout le reste de l'écran. C'est assez impressionnant de voir ça. Et effectivement, non, non, mais c'est un vrai fléau sur l'installation de logiciels, et même des logiciels effectivement relativement incontournables qui utilisent et qui exploitent aussi ce type de démarche. C'est
Personne ne va aller
embêtant.
lire ça, tu penses. Voilà, tu télécharges Flash Adobe qui t'est recommandé quand tu veux, je sais pas, lancer une
Ah,
vidéo sur
complètement.
YouTube. Voilà, tu fais confiance. Donc, moi, je vais, voilà, une
Complètement.
checkie. Je vous mettrai bien dans la
Unchecky.
description. Ça va être installé sur tous les PC de ma famille. C'est déjà certain.
Magnifique. Bon, bah super. J'enchaîne avec un projet qui s'appelle SwitchMate et qui fait écho à un autre projet dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui était un projet de verrou connecté, en quelque sorte, enfin, un bloc qu'on mettait sur sa porte. Le projet s'appelait Sésame et qui permettait en fait de rendre son verrou connecté pour pouvoir ouvrir à distance la porte ou l'ouvrir par son code de son téléphone ou des choses comme ça. Et donc là, cette fois-ci, c'est grosso modo le même type de projet, mais qui est une solution à nouveau plutôt élégante qui permet en fait de rendre connecté un interrupteur. Ça permet en fait exactement au même titre que Sésame de rajouter un boîtier qui d'un côté a une connectivité Bluetooth donc pour être présent sur votre smartphone et activable depuis votre smartphone et qui de l'autre côté en fait a un actionneur mécanique qui permet alors adapté en fonction de certaines typologies d'interrupteurs, mais qui permet en fait mécaniquement d'appuyer dans un sens ou dans un autre sur l'interrupteur, et donc de rendre votre interrupteur connecté. Donc suivant la typologie de votre maison, ça peut être quand même très intéressant si effectivement vous avez beaucoup de choses, d'éléments en fait de votre domicile qui sont connectés par interrupteur, ça peut vous permettre à moindre coût connecter pas mal de choses. C'est donc une campagne Indiegogo qui a commencé le 2 mars et qui se termine le 2 avril, donc il reste encore une quinzaine de jours au moment où on enregistre. L'objectif a déjà été largement atteint, il était de 50 000 dollars et ils sont à 125 000 dollars. Et il reste pas mal de packs que vous pouvez commander. Il y a une chose à bien vérifier si vous souhaitez commander les packs qui sont proposés, je vous dirai les prix après, c'est que vous pouvez aller sur leur site. Alors c'est pas sur, enfin il y a un lien depuis le site, depuis la page Indiegogo, mais ils ont un site qui est très bien fait sur lequel vous pouvez voir la compatibilité en fait de vos interrupteurs avec les boîtiers. Ils expliquent qu'ils vont de toute manière continuer à travailler sur un certain nombre de form factor, enfin de formats d'interrupteurs à l'avenir. Mais donc il y en a certains qui sont déjà supportés aujourd'hui. Je pense que ça ne doit pas être très compliqué, si ce n'est d'avoir les financements, d'adapter, parce que mécaniquement, enfin, il n'y a rien de moins compliqué qu'un interrupteur qui fait on-off à adapter. Et donc aujourd'hui, vous pouvez déjà en acheter. Il y a des packs. Alors les packs Early Bird, au moment où je vous parle, il y en a certains qui sont encore disponibles. Donc le pack starter avec un boîtier, c'est 49 dollars US. Le pack de 2 est à 79 et le pack de 3 est à 109 dollars US. Donc c'est relativement peu cher pour connecter assez rapidement pas mal de choses. Et donc il y a la petite application qui va bien, qui est gratuite, qui est livrée avec, qui vous permet de contrôler à distance ces interrupteurs-là. Voilà, donc ça va vraiment dans le sens un peu de Sésame dont je parlais la semaine dernière. Je ne sais pas si toi, c'est des solutions, si tu te dis que c'est un moyen finalement de démocratiser peut-être, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, de démocratiser le fait de connecter des éléments plutôt que d'acheter soit des ampoules, soit des choses extrêmement chères qui ne sont pas forcément très, très abordables pour tout le monde et qui peuvent faire un peu peur. Ou si c'est juste complètement stupide.
Non, bah, c'est pas complètement stupide, non, c'est des choses qui m'intéressent, et à l'avenir m'intéressent d'automatiser un peu plus, d'avoir de la domotique à la maison.
Mais tu passerais par ce type d'utilisation-là ou tu es plutôt puriste dans la domotique, c'est-à-dire...
Justement, c'est la chose que je me demande, c'est la différence entre toutes ces applications qui, au final, sont pas vraiment compatibles l'une avec l'autre, et on va se retrouver avec plein de standards ou de choses différentes.
Si ce n'est qu'on a IF, enfin, anciennement IFTTT, qui à mon avis, alors là je ne sais pas s'ils sont compatibles, mais ça se développe très rapidement, enfin en tout cas les API ouvertes arrivent rapidement, peuvent permettre justement de, indépendamment de savoir si c'est un outil propriétaire ou autre ou n'importe quoi, savoir qu'en fait on peut complètement interconnecter l'écosystème et faire des actions automatisé sans même avoir à se soucier de si oui ou non Il y a une compatibilité entre l'outil X et l'outil Y dans ma maison, puisque de toute manière, ils sont tous compatibles avec une chose qui est if, et que par ce biais-là, je pourrais toujours faire mes scénarios, enfin mes recettes
Oui, c'est ça, mais c'est des recettes entre différents services. Après, ben voilà, je suis pas un puriste de la domotique, mais j'attends quand même de voir, peut-être comme dans toute nouvelle technologie, le standard qui va émerger, le ou les, ils sont peut-être deux, ils sont peut-être, mais qui va vraiment émerger, qui va vraiment s'imposer avant de me lancer, en fait. C'est peut-être un peu frileux, je ne sais pas, alors que d'habitude, je ne suis pas. Je suis plutôt justement aventureux dans ce genre de domaine, mais voilà, j'ai l'impression que c'est encore un peu frais, et je sais pas, j'ai l'impression d'acheter, quand je vois tous ces projets qui naissent, de risquer parfois d'acheter du matériel qui s'avérera par après obsolète ou difficile à faire
Ah bah
fonctionner en
c'est
interaction avec
clairement
d'autres.
du gadget, ouais. Faut le voir clairement comme du gadget. Je pense que c'est là-dessus je te suis pas mal. Après, je pense qu'il va falloir, enfin, malgré tout, pour qu'un standard s'impose, il y a des paris qui sont à prendre. Et je pense que malgré tout, qu'on le veuille ou non, on fait partie d'une population qui a plutôt tendance à faire partie de ceux qui vont essuyer les plâtres, enfin,
C'est sûr.
qui vont tenter justement de prendre ces paris-là et qui vont acheter le HD DVD plutôt que le Blu-ray, qui vont voilà, typiquement c'est ce type de paris-là, mais en même temps le standard, enfin à mon avis il y aura aucun standard qui s'imposera tant qu'il n'y aura pas une véritable adhésion au concept dans sa globalité. Aujourd'hui, je pense que le marché n'est pas encore effectivement assez mature et qu'il va falloir qu'il y ait des gens qui prennent des décisions, qui se positionnent sur certaines choses, quitte à rater, pour pouvoir justement imposer à terme un standard.
Mais justement, c'est peut-être ça, je me suis déjà peut-être trop investi parfois dans certaines choses comme ça, où j'ai essuyé les plâtres et pour me retrouver un peu le bec dans l'eau après. Ça m'est peut-être déjà trop arrivé, je ne sais pas. Voilà, j'y vais avec réserve.
Et donc pour ceux qui par contre sont complètement convaincus, ça s'appelle Switchmate. C'est une campagne donc Indiegogo et vous pouvez encore acheter. Donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Voilà.
Parfait. Bon, je braye rapidement avec la dernière news et puis après on fait nos mises en évidence. Je l'ai marqué parce que je suis un grand grand fan de Retour vers le futur. Hein. Je fais partie de ces gens qui adorent cette trilogie depuis de très nombreuses années. Et ici il s'agit d'un documentaire qui a été présenté sur Kickstarter. Alors la personne qui présente ce documentaire n'est pas totalement inconnue puisqu'elle avait déjà présenté en fait un autre documentaire sur le sujet. Il y a quelques temps sur Kickstarter et qui avait été fondé, il avait été fait en août 2013, voilà. Donc le premier documentaire en fait c'était un documentaire sur ce qui entoure le phénomène Retour vers le futur. Donc tout ce qui est convention de fans, collectionneurs de DeLorean, enfin tout l'univers vraiment autour, l'univers des fans. Et il avait pas mal réussi son financement. Et ici, il revient avec un autre projet qui, là, est un documentaire purement sur le film, avec vraiment les intervenants du film, que ce soit les acteurs, il a vraiment réussi apparemment à choper une pléthore d'acteurs, ce soit Robert Zemeckis lui-même, même Alan Silvestri, qui a fait la célèbre musique de la saga. Enfin, vraiment, il a réussi à fédérer énormément de monde autour de lui. À mon avis, ça a attiré un peu l'attention avec le précédent documentaire. Alors, petite note quand même, qui moi, pas que je doute, loin de là, hein, j'ai même plutôt envie de backer, mais il faut savoir que le précédent documentaire, qui a été fondé donc en août 2013, comme je disais, n'a pas encore vu le jour. Il le dit lui-même d'ailleurs sur la page Kickstarter du nouveau documentaire, que effectivement vous avez on nous a ça semble familier, vous avez déjà vu ailleurs, effectivement on a déjà fait précédente campagne Kickstarter, cette nouvelle ne change rien, ceux qui ont backé en 2013 auront leur dû, et que voilà, il s'agit ici d'une nouvelle campagne complètement différente. On peut quand même se poser des questions en se disant voilà, il a déjà remporté la mise une fois, il n'a pas encore sorti le truc. Voilà, ça émet quand même quelques doutes. Mais sinon, Voilà, ça paraît assez bien parti, comme je disais, très complet. La vidéo de présentation donne très envie, franchement, ça a l'air vachement bien tourné, vachement bien documenté, et vu justement de ce qu'il a déjà fait, ben, le type est quand même un passionné aussi de la saga, quoi. Donc je pense que ça peut être que du bon. Et alors ce qui me fait rire aussi, c'est que parmi les récompenses, il y a quand même pas mal de trucs assez collector. Bon, évidemment, il faut monter dans les prix, hein, pour pouvoir obtenir tout ça, mais on a par exemple la partition originale d'Alan Silvestri qui est signée, un t-shirt signé par Robert Zemeckis. On peut avoir, et ça peut monter comme ça assez loin, jusqu'à aller par exemple à des Lego signés par les deux acteurs principaux, donc Michael J. Fox et Christopher Lloyd. On peut aller manger avec le producteur, vraiment ce genre de choses, quoi. Bon, là, il faudra quand même sortir le portefeuille, puisque manger avec le producteur, c'est quand même 1 500 $. Donc voilà, moi, ça m'intéresse énormément. C'est le genre de projet que je me verrais bien baquer, ne fût-ce que pour avoir les petits goodies, hein, qui vont avec. Et pour avoir quand même le documentaire, peut-être en français aussi, puisqu'il propose aussi un premier palier. Oui, j'ai quand même pas précisé, important. Le but, c'était de 50 000 $. Il est ici à 82 220 $ à l'heure où je vous parle. Donc, nous sommes le 17 mars. Et il est exactement 23 h 01. Il reste encore 22 jours. Et dans les prochains paliers atteignables, s'il atteint les 88 000, il proposera le documentaire en sous-titré espagnol, français, portugais, italien, allemand et anglais. Donc voilà, rien que pour ça, je me dis que peut-être je suivrai pour qu'il atteigne les 88 000 $ et que je puisse avoir droit à ma VO sous-titrée. Ouais, je sais pas si toi, tu aimes Retour vers le futur?
Ouais, non, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Alors, je m'excuse hein, s'il y a du bruit derrière moi. Je ne suis pas seul.
Non, on n'entend rien.
Mais ouais, non, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, ouais, non, c'est juste ce qui est dommage et pas inquiétant, mais dommage, c'est de voir qu'il n'a pas réalisé le premier. Et donc, il va falloir attendre forcément un bout de temps, à mon avis, pour que tout ça s'enchaîne. Donc c'est juste, non, c'est juste ça qui éventuellement est dommage. Mais non, c'est ouais, très beau, très comment dire, très belle série de films et donc des reportages dessus, ça ne peut être que super, surtout si c'est fait par des passionnés.
Tout à fait. Mais non, c'est voilà, c'est vrai que c'est la petite chose qui me met le doute. Bon, je vois le temps qui passe et passe et passe. Mais bon, c'est pas grave. Nous allons donc entamer les mises en évidence, les deux gros morceaux de cette émission. Et ben, je commence de nouveau.
Tu
Hein, on me...
ouais, comme tu veux, hein, sinon je peux
Oh ben, vas-y,
enchaîner.
allez. On va te laisser la parole pour cette rubrique. Je te laisse. Vas-y.
Très bien. Alors, je vais vous parler de Dolphy. Dolphy, c'est ce qu'ils appellent le device next-gen pour le nettoyage. Ouais, comme tu dis. Non, franchement, ça m'a plutôt bluffé. Je suis pas mal dans la mouvance des projets dans lesquels je ne crois que moyennement en ce moment, entre le spray pour
Elle mérite
s'endormir
d'être
et...
honnête.
non, mais c'est-à-dire que je suis partagé entre être totalement impressionné par ce qui est proposé et n'y croire qu'à moitié. À la nuance près que je tiens à préciser avant de vous expliquer ce que c'est que le projet. Celui-ci a été porté par un laboratoire d'ingénierie suisse qui s'appelle MPI Ultrasonics. Et donc, le dispositif me semble quand même un peu plus sérieux, ou en tout cas, l'autre l'est peut-être, mais en tout cas, il a une légitimité peut-être plus importante que l'autre, qui est posée par, enfin, qui est portée par ce laboratoire. Donc, le concept, si vous avez des vêtements délicats, c'est toujours un vrai problème. Alors, je ne parle pas évidemment de votre jean et vos chaussettes, mais n'importe quel vêtement qui n'a pas vocation à se retrouver dans le lave-linge et qui parfois malheureusement s'y retrouve ou par Voilà, parce qu'on se dit que ça lui fera pas de mal, on le met, ou parce qu'on en a marre de payer la blanchisserie à chaque fois, eh bien, on peut être amené à soit complètement rétrécir, soit le délaver, soit faire des choses complètement horribles, et donc finalement en racheter un nouveau vêtement. Eh bien, Dolphy, leur solution, Device Dolphy, c'est un dispositif. Ça ressemble à une espèce de galet. C'est un peu plus gros qu'un smartphone, enfin de la taille à peu près d'un smartphone, qui en fait va émettre des ultrasons. Donc ce galet qui est portable, hein, vous pouvez le mettre dans un sac à main n'importe où. Vous allez remplir donc votre lavabo ou l'endroit où vous souhaitez nettoyer votre vêtement d'eau. Vous allez le mettre dedans, vous allez mettre votre lessive, enfin ce que vous voulez dedans, comme si vous alliez le laver à la main, si ce n'est que au lieu de devoir le laver à la main, vous posez le galet à l'intérieur et il va émettre des ultrasons et ça va faire une mini lessiveuse dans le bac et ça va intégralement le nettoyer. Ce qu'ils mettent en avant, c'est que ça utilise 80% moins d'énergie qu'une machine conventionnelle. Et il n'y a absolument rien à installer. Et ça, donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de rendre le lavage à la main un travail main libre. C'est comme ça qu'ils l'ont dit, je trouve ça assez drôle. Donc, le lavage à la main deviendrait un travail main libre. Et pour encore plus appuyer le sérieux et la légitimité du projet, ils font quelques explications techniques du fonctionnement. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Enfin, c'est technique, c'est très, très simple à comprendre. En fait, ça fonctionne au moyen d'un petit transducteur. Alors, ça, c'est le terme technique, qui est à l'intérieur de la coque en plastique du Dolphy, qui va générer un certain nombre d'ondes ultrasonores. Qui sont modulés sur des longueurs d'onde différentes, bref, qui vont créer des bulles dans l'eau. Et au fur et à mesure que ces micro-bulles vont éclater dans l'eau, elles vont produire elles-mêmes des ondes de choc minuscules qui vont déloger la saleté des fibres des vêtements. Et ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez effectivement, a priori, rien voir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez acheter un galet que vous allez mettre dans l'eau avec vos vêtements. Vous n'allez rien voir de ce qu'il fait. Vous n'allez rien entendre, par définition, mais a priori, ça devrait fonctionner. Donc voilà, le principe, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont collecté 366 000 dollars US sur un objectif de 100 000 dollars. Le projet avait débuté le 20 janvier et se termine dans quelques jours, le 21 mars. Et il reste quelques packs que vous pouvez acheter. Alors les packs sont découpés. Il y a les early birds qui sont déjà complètement sold out. Mais vous pouvez par exemple encore vous acheter le Dolphy original à 109 dollars, sachant que le prix de vente sera d'environ 150 dollars. Et puis après, vous avez des packs avec 1, 2, 3, 5, 10 Dolphy. Et pour toute la famille, c'est magnifique. Et donc voilà, j'hésite franchement à m'en acheter un parce que je trouve ça assez sympa. Et donc je vais peut-être dans les jours à venir craquer parce que ça me paraît intéressant. Sachant que j'aimerais bien encore une fois avoir un moyen de vérifier le véritable fonctionnement et le véritable la véritable efficacité en fait du projet avant de l'acheter, mais a priori ils disent que c'est extrêmement efficace.
J'ai déjà entendu parler de ce genre de choses, des ultrasons pour laver, etc. Je sais pas où, mais j'ai déjà vaguement entendu parler de ce genre de choses, donc j'ai tendance à y croire, à voir effectivement réellement à l'usage. Hein, évidemment, je ne sais pas juger, mais.
Parce que en fait, ça paraît quand même très petit. Et dans la démonstration qu'ils font, alors bon, après il y a aussi tout plein de, ils zooment à fond sur les fibres du tissu pour montrer qu'avec les vibrations, bon, donc ça n'a de valeur que, enfin, ça n'a aucune valeur, c'est purement marketing. Par contre, la démonstration, ce qui est un peu enfin quasi frustrant, c'est qu'on voit qu'effectivement il se passe rien. Et par définition, il se passe rien. En tout cas, à l'œil nu, si ce n'est que le vêtement apparaît effectivement plus propre une fois qu'il est sorti d'avoir baigné un certain temps avec l'appareil dans l'eau. Mais bon, après, les publicités de lavage, c'est systématiquement un vêtement extrêmement sale comme jamais on aurait pu le voir dans la vraie vie à l'entrée et un vêtement extrêmement propre, mais plus propre qu'à l'achat, à la sortie. On peut encore émettre des doutes sur cet aspect-là. Bon, en tout cas, ça a l'air quand même intéressant et en plus, ça me rassure pour le coup que tu me dises que c'est une technologie, en tout cas, qui éventuellement te rappelle quelque chose
Ouais,
d'existant.
maintenant je m'aventure peut-être aussi dans quelque chose que je maîtrise pas, mais j'ai l'impression en tout cas d'avoir déjà entendu. Maintenant c'est vrai que bon voilà, c'est très marketé comme tu dis, c'est comme le paquet de lessive qui arrive à te vendre quelque chose qui rend les vêtements plus blancs que le blanc lui-même.
Exactement.
Voilà, de là à y croire, mais qui sait, si ça marche
Bon,
ne fût-ce que
mais
pour enlever quelques tâches.
je pense sincèrement que je vais craquer sur ça et que donc je pourrai éventuellement vous faire un retour post-réception.
Ah ben ça, ce serait génial. D'ailleurs, moi aussi, au passage, transition toute trouvée, magie, je voudrais vous faire un retour à mon avis du projet dont je vais vous parler également, puisque je pense aussi que je vais craquer, que je vais baquer. Donc, moi, mon projet s'appelle Rocketbook. C'est un projet qui a pas mal buzzé ici ces derniers temps, et je suis tombé dessus par hasard aujourd'hui, et voilà, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule. À la base, je voulais parler d'autre chose, et puis... Non, je me suis dit, c'est lui, c'est le projet. Donc, ceux qui m'ont déjà peut-être entendu dans les précédentes émissions ou me suivent un peu, ont déjà dû entendre que j'adorais la prise de notes manuscrite. J'ai beaucoup de mal à me défaire du simple bic et d'une feuille pour noter des idées au moment présent. C'est toujours difficile de sortir un PC pour commencer à taper ou de sortir mon smartphone et d'organiser quelque chose de clair avec un smartphone. Donc je cherche depuis longtemps une idée, une alternative me permettant de prendre des notes manuscrites tout en profitant d'une sauvegarde numérique, évidemment bien pratique pour tout classifier. Il existait déjà d'ailleurs au passage, pour ceux qui connaissent, les carnets Moleskine qui avaient sorti un partenariat avec Evernote, mais bon voilà, on était très limité, on était limité à Evernote, les carnets sont quand même un peu chers avec un système d'abonnement Evernote Premium qui est indispensable. Voilà, on pouvait l'utiliser qu'une fois, enfin ça avait plein de limites. Et donc ici avec Rocketbook, j'ai l'impression vraiment, je m'emballe peut-être, mais d'avoir trouvé le sésame, le alléluia, vraiment le carnet parmi tous les carnets. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement un simple bloc de notes, hein, à spirale, qui fait 50 feuilles, oui c'est ça, donc une centaine de pages. Un format environ A4, dans lequel vous prenez vos notes habituelles, hein, avec un stylo fourni avec, enfin un Bic fourni avec, quoique Bic c'est une marque, je pense. Et alors, les.
Je confirme.
Ah, merci. Il y a deux particularités qui m'ont vraiment assez, je ne vais pas dire subjugué, mais m'ont marqué. La première, c'est qu'il y a en dessous du carnet, de chaque page, pardon, toute une série d'icônes. Qui sont personnalisables. Et en fait, le fait d'acheter. Vous n'achetez pas seulement le carnet si vous voulez, vous achetez le carnet, le bic évidemment qui va avec, qui a son importance, je l'expliquerai après, mais également l'application. Et alors ce qu'il y a de génial, c'est que vous pouvez, via l'application, décider de tout un tas d'interactions avec différents services dans le cloud qui seront déclenchés simplement par le fait de. Colorier, de remplir les icônes, de biffer les icônes avec de l'encre, tout simplement. Donc, comment ça se passe? Ben, vous ouvrez l'application, vous mettez devant le carnet. La vidéo montre d'ailleurs que c'est extrêmement rapide, hein, l'application détecte ça en une poignée de secondes. Donc, on peut scanner toutes les pages vraiment très rapidement. Et elle va détecter quelles icônes, s'il y en a une ou plusieurs, sont dessinées, sont griffonnées, et en fonction déterminer ce qu'elle doit faire avec l'image qu'elle a prise. Donc ça se synchronise avec Google Drive, avec Dropbox, avec Evernote et avec, si besoin, l'application email. En tout cas, c'est ce qui est présenté pour le moment. Visiblement, ça pourrait évoluer. Et donc, ben voilà, vous pouvez très simplement lui dire, par exemple, admettons, je ne sais pas, il y a l'icône, dans les icônes, c'est des petits dessins. Donc, il y a par exemple l'icône d'avion. Ben, vous pouvez lui dire, si c'est l'icône d'avion qui remplit, ben, cette page-là, tu la sauvegardes dans Evernote et tu vas la mettre dans mon Drive, dans le dossier les projets du web, par exemple, parce que c'est une note pour les projets du web. Si c'est la couronne qui est coloriée, tu l'envoies par mail à Monsieur Machin et tu la sauvegardes dans mon Dropbox. Voilà, il y a tout un tas de petites interactions assez pratiques. Et je suis déjà en train d'imaginer ce que ça donnerait avec If derrière, qui lui va encore optimiser plus ce tri et amener à plus d'interactions. C'est encore une autre histoire. Et donc, ça, c'est la première partie. Alors, petite précision, ils vont utiliser le système OCR qui existe dans Evernote et dans Drive pour le moment. Donc ça fera un petit peu de reconnaissance de caractère. Mais ils annoncent qu'ils travaillent eux-mêmes sur leur propre système OCR pour que l'application puisse d'elle-même faire de l'OCR directement sur ce que vous photographiez. Parce que pour le moment, ce sera uniquement des JPEG qui sortiront de là. JPEG que vous pourrez également demander après à réunir dans un PDF. L'application permettra aussi de faire ça. Et alors, deuxième chose, donc ça c'est le premier gros aspect. Important pour moi. Et le deuxième, c'est que le carnet est réutilisable. Ça, j'ai trouvé ça assez presque magique. Donc le principe, c'est que le stylo qui est fourni avec a une encre spécifique qui s'efface via une forte chaleur. Et donc, il le montre dans la démo d'ailleurs. Vous le passez simplement 30 secondes au micro-ondes, mettez votre carnet dans le micro-ondes et pouf, il ressort blanc comme neige. Vous pouvez le réutiliser. Voilà, il est reseté, remis à zéro. Et ça, j'ai trouvé ça juste. Juste magique, parce que c'est en quelque sorte allier le meilleur des deux mondes, le meilleur de l'écrit papier, avec la simplicité de sauvegarde du cloud et des différents outils qu'on a actuellement, et avec la possibilité d'effacement de données pour faire de la place qu'on retrouve dans justement tous ces systèmes informatiques et qui manquent au support physique, quoi. Donc je trouve ça vraiment malin et vraiment, vraiment bien imaginé. Et c'est pas encore fait parce que, comme avec tous ces systèmes, vu que ça vient des États-Unis, il y a des gros frais de port, donc j'attends la réponse de plusieurs de mes collègues qui sont intéressés pour faire un achat groupé, en profiter pour avoir un petit rabais, mais je vais craquer, ça c'est une certitude. Ça, je vais l'avoir, donc je vous ferai part de mon retour. Et alors, dernière petite précision, comme ça j'ai tout expliqué, j'ai vraiment fait le tour. C'est une campagne qui dure encore 4 jours, donc normalement vous écouterez ce podcast, elle sera presque arrivée au bout, enfin, vous dépêcher. Il visait 100 000 dollars de but. Non, non, excuse-moi, je suis sur la mauvaise page, il me semble bien, je m'excuse. Je recommence, voilà. Donc 17 jours, pas 4 jours, je regarde le mauvais endroit, excusez-moi. 17 jours restants. Ils visaient donc 20 000 dollars et ils en sont déjà à 320 781 et ça risque encore de monter donc pas de souci à se faire à ce niveau-là, ce sera bien financé. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses si pour ta part tu trouves ça aussi magique que moi.
Ah, ouais, non, complètement. Là, c'est dans les projets qu'on a évoqués récemment, ça fait partie effectivement d'un des projets qui m'a le plus convaincu. On sent que le projet a été pensé, enfin, l'outil a été pensé de bout en bout, et que effectivement, ils ont réfléchi même à l'aspect réutilisable. En fait, parce que je crois que tu l'as tweeté, quand j'ai été
Ouais.
regarder la vidéo, au fur et à mesure qu'il présentait un nouvel aspect de l'outil, je me disais, c'était à chaque fois un nouveau, je sais pas comment dire, enfin, un nouveau bonheur de savoir qu'on pouvait en plus faire ça avec. C'était, non, non, c'est vraiment un super outil. Juste toute petite précision. Pour ceux qui connaissent, en fait, ils sont en partenariat avec la marque Friction. Alors, je ne sais pas si c'est la marque ou si c'est le nom, mais je crois que c'est la marque globale, mais les stylos Friction, que vous connaissez sûrement, qui sont donc des stylos mais effaçables, il y a une petite gomme en fait. Et la gomme a juste pour effet en frottant, chauffer et donc par définition, effacer l'encre qui s'efface à la chaleur. Et donc en fait, vous pouvez utiliser par-dessus les stylos friction classiques et qui auront pour effet effectivement d'être effacés. Donc non, non, c'est juste génial, tout est présent. Je me suis même demandé en fait pourquoi ils n'avaient pas, pourquoi ils avaient accepté en quelque sorte d'exploiter la technologie de réinscription, parce que pour eux, c'est pas forcément intéressant, c'est-à-dire que
Oui,
c'est un
alors
achat
attention,
unique.
il le dit que dans les descriptions, il y a quand même une limite à ça. Ils se sont rendus compte, c'est ce qu'ils notent dans le descriptif, que dans leur test, au-delà de la 25e, du 25e effacement, en tout cas dans le micro-ondes, parce qu'après il y a peut-être d'autres moyens de le faire aussi, au-delà du 25e effacement, les testeurs commençaient à avoir certains caractères qui restaient, qui ne s'effaçaient plus. Donc il y a quand même une
D'accord.
petite limite malgré tout,
D'accord.
mais bon, 25 fois 100 pages, et sûrement plus, puisque c'est pas quelques caractères parfois qui vont déranger, je crois qu'il y a de quoi faire.
Non, complètement. Non, mais donc génial, juste génial. L'idée des petites icônes à colorier qui sont en plus pas figées, c'est-à-dire ça laisse libre place à l'imagination pour après. Je pense que j'aimerais juste effectivement que ça évolue dans le sens un peu if pour avoir encore plus après de possibilités de faire évoluer les usages autour de l'outil, mais c'est non, c'est tout bonnement génial comme projet et si j'avais moyen de participer à la commande groupée, je pense
Ah bah on va
que je le ferais.
s'arranger. Bon, c'est moins évident qu'il faudrait que je te le relève derrière, mais
Oui, c'est pas évident.
bon, je suis sûr. Demande autour de toi, tu vas voir, il y a des gens ont été vite convaincus de mon côté.
C'est possible, je vais voir. Je vais essayer de convaincre les gens et j'enverrai un Dolphy et un Rocketbook à
Non mais
chacun,
franchement,
quoi.
c'est en plus de ça, allez voir la vidéo. Je mettrai dans le descriptif de l'émission le lien évidemment, mais la présentation, si ça marche, en tout cas comme dans la présentation, l'application en plus de ça est super rapide, quoi. La façon dont ça scanne les pages, c'est...
Ouais, il scanne deux pages en simultané, ça prend, c'est moins, bien moins qu'une seconde, parce que le temps de scan en tout cas, parce qu'il positionne très rapidement en fait les espèces de quatre petits. Ouais, non, c'est très très rapide. Très rapide et il scanne l'entièreté, enfin, je sais pas, une dizaine de pages en quelques secondes, et c'est assez
Ouais, vraiment,
impressionnant.
je vous conseille d'aller jeter un œil. Voilà, c'est Rocketbook. Et pour moi, ça vaut vraiment le coup. Et vous aurez certainement un retour. Bon, c'est pas prévu avant si j'ai bien lu, le mois de juin ou de juillet. Ouais, juillet. Donc, j'ai encore un peu de temps pour vous faire le retour. Mais je vais les suivre, ça c'est certain. Soyez-en sûr. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'émission. Je ne sais pas si de ton côté, tu as
Exactement.
encore des petites
Oui,
choses
tout à
ou.
fait. Non, si ce n'est que avant de dire au revoir et donc de dire où nous retrouver, je voulais juste préciser en fait que je vais avoir des empêchements pour dans 2 semaines, et donc je ne serai pas présent au prochain épisode. Mais ne vous en faites pas, on vous prépare quelque chose quand même. On essaye de rester présent, et donc tu seras fidèle au poste. Avec quelque chose qu'on vous prépare pour quand même assurer l'émission. Et donc moi, je reviendrai dans 1 mois. Voilà, parce que les choses vont vite. Et donc je serai là dans 1 mois fidèle
Tout
au
à fait,
poste.
donc c'est
Voilà.
effectivement la semaine prochaine, c'est une mauvaise habitude. La prochaine émission sera peut-être un peu différente, mais voilà, vous verrez. Et il y a d'autres choses aussi de mon côté qui se goupillent et d'autres petites choses qui se préparent que vous devriez voir arriver sur les projets du web. Donc suivez-nous avec attention. Voilà. Bon, ben. Le traditionnel petit tour de table de fin. Où peut-on te retrouver sur l'internet des cybernautes, comme disent certaines personnes que je ne citerai pas?
Eh bien, moi, ça va être très simple. Donc, c'est Twitter Mathieu TNSC, Mathieu avec 2 T et TNSC, comme je viens de le dire. Je vais, oui, après, sinon, c'est tout ce qui est les projets du web. Donc, arrobase les projets du web sur Twitter, la page Facebook, la page Google+. Vous pouvez nous en tendre aussi sur Pod Radio. Je ne sais pas si les horaires ont été mis à jour dans les notes de l'émission. Donc
Si,
c'est
si,
ça.
je les ai mis
Donc
à
c'est
jour.
sur le canal Alpha le mardi à 21h30 et le samedi à 15h30. Et puis on peut te retrouver donc toi aussi par ces moyens-là et par ton compte Twitter perso. Je te laisse.
C'est ça, notre Kirby tout simplement, donc NOTKIRBY. Et c'est moi, parce que j'ai relancé récemment un petit peu pour le fun, parce que j'aime bien écrire au final mon blog, où je fais beaucoup de news autour du monde des séries, qui est un monde qui me passionne pas mal. Donc si vous aimez bien les séries, n'hésitez pas à faire un petit tour sur tout ça. Pour le moment, c'est coeurbilan.net, tout simplement. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait tout le tour des sujets et qu'on a bientôt abordé. Et on est, je pense, dans les temps, hein, comme quoi.
C'est impressionnant. Je ne sais pas comment on fait, mais on y arrive.
Ah ben voilà. Donc n'hésitez pas à nouveau à nous faire vos retours, hein, je ne le dirai jamais assez. Et en attendant, ben moi je vous dis à dans 2 semaines. Mathieu, je te dis à dans
Ah,
un
dans un
mois.
mois, ouais. Et puis, bah,
Voilà.
donc, bon courage pour le prochain épisode. Ah.
C'est gentil, merci, et bonne découverte à tous pour ces nouveaux projets.
Ciao.
Les projets du web.